Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Gwendoline Troyano, Mélanie Chalandon, Bertie Bourdon, Bruno Barada et Nora Litoussi, réalisé par Vivian Lecuivre. Et la technique ce matin, c'est Jean-Guilain Meige. C'est le deuxième épisode de notre série sur le Parlement européen, puissance et impuissance d'une institution directement élue. À l'approche des élections européennes du 9 juin prochain, nous parlions hier des enjeux politiques du vote. Nous évoquerons demain l'ambition démocratique du Parlement, être la voix du peuple. Aujourd'hui, des élus sous influence de pays tiers, en l'occurrence le Qatar.
Au pire, nous avions vu à maintes reprises des affaires de fraude dans lesquelles des parlementaires avaient fait un usage illicite de leurs indemnités. Mais rien qui n'impliquait des pays tiers, des pots de vin et de la corruption. Des risques d'influence indue, des conflits d'intérêts, oui, mais jamais rien à cette échelle.
Les chefs de groupe au Parlement européen ont unanimement voté en faveur de la destitution d'Eva Kaili de son poste.
Nos collègues du Parlement européen sont sous le choc. Ces informations représentent un lourd fardeau. Parmi nous, personne n'aurait imaginé qu'il serait possible d'acheter nos collègues. C'est pourquoi une réaction forte est nécessaire.
Le Parlement européen, chers collègues, est attaqué. La démocratie européenne est attaquée. On ne mettra pas la poussière sous le tapis.
C'est une poussière, oui, mais une poussière d'or longtemps cachée entre les lames du parquet qui a fini par s'amonceler au bas des portes, tout recouvrir d'une pellicule épaisse et qu'il a fallu dégager avec pelle et râteau. Des dizaines de milliers d'euros en petites coupures retrouvées au domicile de l'eurodéputée grecque Eva Kaili, jusque sous des couches pour bébé. C'est une image parmi d'autres de ce qu'on a appelé le Qatar Gate, avec ses valises de billets, ses perquisitions et ses élus derrière les barreaux, tous mis en cause pour avoir défendu le Qatar dans l'hémicycle, notamment la façon dont l'émirat traitait les ouvriers des chantiers de la Coupe du Monde, de bons mots bien sentis, en échange de beaucoup d'argent. Depuis les révélations de cette ingérence par le Qatar, mais aussi par le Maroc et la Mauritanie, d'autres découvertes ont été faites récemment qui concernent cette fois la Russie et la Chine. Il s'agit à chaque fois de promouvoir des discours complaisants, de se faire ouvrir quelques portes et d'influencer les élections. Si le Qatar Gate impliquait principalement des socialistes européens, cette fois, c'est l'extrême droite qui se prête au jeu. Les conclusions judiciaires de ces scandales n'ont pas été rendues, mais elles ont obligé le Parlement européen à prendre plusieurs mesures censées le protéger des influences extérieures. Alors, quels contrôles ont été mis en place? Ont-ils imperméabilisé le Parlement aux ingérences de pays tiers? Nous en parlons avec nos deux invités. Bonjour Antoine Vaucher.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes politiste, directeur de recherche au CNRS, au Centre européen de sociologie et de sciences politiques de l'Université Paris 1. Vous avez coécrit le livre blanc de l'Observatoire de l'éthique publique, un an après le Qatar Gate, comment mieux protéger l'Union européenne contre les conflits d'intérêts et la corruption. C'était en décembre. Nous sommes également avec Louis Collard. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Vous êtes journaliste au pôle enquête du journal Le Soir, co-auteur de l'enquête Qatar Gate qui est parue chez HarperCollins, que vous avez écrit avec votre collègue au journal Le Soir, Joël Matriche. Alors Louis Collard, il me semble indispensable non seulement de rappeler ce qu'ont découvert en décembre 2022 les services de renseignement belges et puis aussi tout ce qu'on a compris depuis, les rouages de ce Qatar Gate. Votre livre revient sur la chronologie des événements qu'on a comprise petit à petit. Tout commence par une enquête belge sur des soupçons de corruption au Parlement européen, mais de la part d'agents marocains et non qataris au départ.
Exactement, donc ça part d'une enquête de renseignement dans un premier temps, avant que ce soit judiciarisé. Une enquête de renseignement du service de contre-espionnage belge, la Sûreté de l'État, avec 5 partenaires européens, dont un partenaire français d'ailleurs. Sur de l'ingérence marocaine, comme vous le disiez, avec, c'est ça qui est incroyable dans cette histoire, la présence d'espions marocains, de la DJED, le service de renseignement extérieur marocain, pour influencer la politique européenne, en tout cas tenter de l'influencer, à travers une personne principalement, un ancien eurodéputé italien qui a le rôle central dans cette histoire, qui s'appelle Pier Antonio Panzeri. Donc ça a commencé par là, et puis l'enquête de renseignement s'est aperçue que, manifestement, un autre État, à savoir le Qatar, utilisait le même réseau, le même groupe autour de Panzeri pour là aussi tenter d'influencer la politique européenne au sujet du Qatar. Et là, par contre, ça passait plutôt par l'ancien directeur du Comité national des droits de l'homme du Qatar, qui est devenu depuis, et qui est toujours d'ailleurs, le ministre du Travail du Qatar. Donc c'est ça qui est extraordinaire. Il y a cette enquête de renseignement qui va être judiciarisée lorsque les enquêteurs de la Sûreté de l'État vont pénétrer en secret dans l'appartement bruxellois de Panzeri et vont découvrir sous son lit et dans un coffre-fort un tas de billets d'argent, près de 700 000 euros en petites coupures. Essentiellement, l'enquête le démontrera, donné par les officiels qataris, pour tenter d'influencer la politique européenne. Puis ensuite, le dossier est judiciarisé.
Et ensuite, chez Eva Kaili aussi, vice-présidente du Parlement européen à l'époque, interpellée à son domicile avec combien ? 900 000 euros en petites coupures.
Oui, ça, c'est, pas loin, on les a trouvés.
Voilà, on les a trouvés petit à petit aussi. Son père avait été intercepté quelques temps plus tard avec 500 000 euros sur lui. Il courait se cacher à l'hôtel. En tout, il y a eu 16 perquisitions, 1,5 million d'euros de découverts. Et tout ce réseau qui regroupe à la fois des assistants parlementaires, des représentants, représentants d'ONG ou d'organisations syndicales, deux députés du Parlement européen, dont Eva Kaili, élue du parti grec PASOK à l'époque, donc socialiste, et à ce titre députée européenne au sein du groupe des socialistes européens.
Aujourd'hui, la Coupe du Monde au Qatar est une preuve de la façon dont la diplomatie sportive peut aboutir à une transformation historique d'un pays. Ces réformes ont inspiré le monde arabe. J'ai aussi dit que le Qatar était à la pointe en matière de respect du droit du travail, abolissant la kafala et introduisant un salaire minimum. Ils ont fait le choix de s'engager et de s'ouvrir au monde. Pourtant, certains ici appellent à les discriminer. Ils les harcèlent et accusent tous ceux qui s'engagent avec eux de corruption. Pourtant, ils prennent leur gaz. Pourtant, leurs entreprises y font des milliards de bénéfices. Ils nous aident et sont des négociateurs pour la paix. Ils sont de bons voisins et de bons partenaires. Nous pouvons nous aider mutuellement pour surmonter nos problèmes.
Eva Kaili, en novembre 2022, donc un mois avant son arrestation, et alors que le Parlement devait voter pour ou contre une résolution condamnant le Qatar pour la façon dont il traitait les ouvriers de la Coupe du Monde. Un petit mot, Louis Collard, quand même, sur Eva Kaili, qui a été démise de ses fonctions de vice-présidente, mais qui est toujours députée au Parlement européen. Elle vote toujours.
Absolument, donc comme indépendante,
elle
fait partie des trois eurodéputés en exercice qui sont inculpés, on dit en Belgique, c'est-à-dire mis en examen dans ce dossier, à la fois pour organisation, comme membre d'une organisation criminelle, pour corruption et blanchiment. Mais elle siège toujours, évidemment, elle a pu voter tous les derniers textes en plénière ces derniers mois, elle a fait quand même près de 4 mois de détention préventive.
Alors, à la tête de ce réseau, tout à l'heure, vous nous le disiez, le socialiste italien Pier Antonio Panzeri, qui a été élu au Parlement européen, lui aussi, pendant une dizaine d'années, de 2004 à 2019, qui a été président de la délégation sur les relations avec le Maghreb et qui a, Antoine Vaucher, fondé une ONG qui s'appelle Fight Impunity. Qu'est-ce que c'est que cette ONG, sur qui tout repose? En fait, le Qatargate, c'est un nœud pour comprendre comment ce Qatargate a pu être possible.
Oui, c'est-à-dire que là, on parle effectivement d'un ancien parlementaire qui, au lendemain justement de son mandat, crée une ONG Fight Impunity qui a pour raison sociale de défendre les droits humains et de promouvoir en quelque sorte les droits humains et des relations entre l'Union européenne et les autres pays qui soient justement placés sous l'égide des droits humains.
Et lutter contre l'impunité, ce qui ne manque pas de sel.
Voilà, et d'organiser ce qui va être effectivement le cas, des colloques, des initiatives conjointes avec le Parlement européen et tout particulièrement avec le sous-comité des droits humains, qui est un sous-comité du Parlement européen qui a une place historique importante, puisque le Parlement européen a acquis au fil des décennies une forme de magistrature morale en termes de droits humains. C'est quelque chose sur lequel les résolutions ont toujours été assez fortes, en quelque sorte. Et donc, c'est aussi un des espaces, le Parlement européen, où les États jouent aussi en partie leur réputation. c'est une des tribunes sur lesquelles, effectivement, les États internationaux, les autres États hors Union européenne jouent leur réputation, leur crédibilité. Et c'est important quand il s'agit, pour le Maroc, peut-être pour le Qatar, de négocier des accords commerciaux avec l'Union européenne, puisque vous l'avez mentionné, Panzeri faisait partie d'un comité qui réunissait le Maroc et des représentants du Maroc et de l'Union européenne autour de cette question des accords commerciaux.
Et donc cette ONG, aussi parce qu'elle prétendait lutter pour les droits humains, n'a jamais éveillé les soupçons, Louis Collard, au sein du Parlement ?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Antoine Vaucher. Au départ, vraiment, lors des premières perquisitions, on a pensé, et ça reste relativement vrai, que cette ONG, Fight Impunity, était au cœur du système. Mais on a pensé même qu'elle servait de véhicule à la corruption, ce qui n'est pas certain. D'ailleurs, les donateurs de cette ONG démentent avoir quelques liens que ce soit avec le Qatar, même si ça reste une piste possible. Par contre, cette ONG, clairement, elle servait de vitrine à Panzeri et à ses amis. Elle lui a servi en quelque sorte à garder un pied dans la porte de cette sous-commission des droits humains au Parlement européen, en s'y faisant inviter en tant que président de cette pseudo-ONG, qui est en fait une simple association de droit belge, très très régulièrement au Parlement européen, de pouvoir y présenter ses rapports annuels, par exemple. Et donc vraiment, Panzeri, qui a quitté le Parlement européen lors des élections de 2019, les précédentes élections, a utilisé cette ONG pour rester vraiment au cœur du quartier européen et au cœur du Parlement européen à Strasbourg et à Bruxelles.
Alors Antoine Vaucher, encore une fois, comment cette ONG a-t-elle pu rester sous les radars, ne pas être remarquée par les commissions parlementaires, que personne jusqu'à... Alors l'enquête, vous le dites, Louis Collard est en train plutôt de dire qu'on ne sait pas si cette ONG a été financée par l'étranger, mais en tout cas, est-ce que elle était obligée, par exemple, Antoine Vaucher, de s'inscrire sur le registre de transparence qui existe au sein de l'Union européenne, auquel normalement tous les lobbies et les ONG doivent s'inscrire.
Effectivement, il y a dans l'Union européenne un registre de la transparence qui impose, enfin non, qui n'impose pas justement, qui laisse la possibilité effectivement au groupe d'intérêt de s'inscrire. Ça n'est donc pas obligatoire, mais ça le devient si ces ONG ou ces groupes d'intérêt souhaitent entrer en relation avec la Commission européenne ou avec le Parlement européen. Et c'est là que l'enquête a montré une forme de négligence. On pourra revenir là-dessus de la part de cette ou peut-être autre chose qu'une négligence, on ne sait pas, justement, de la part de ce sous-comité des droits humains qui, justement, a mobilisé cette ONG Fight Impunity, alors même que l'ONG Fight Impunity ne s'était pas inscrite sur le registre de transparence, qui, tout en ayant plein de défauts, tout en étant purement déclaratif, avec très peu de contrôle de ce qui est déclaré par ces groupes d'intérêt ou ces ONG, est tout de même un espace de transparence sur lequel on peut voir qui est employé, quels sont les financements de cette ONG, etc., ce qui aurait donner effectivement peut-être quelques premiers éléments, de quelques pistes. Voilà.
Alors il y a, me semble-t-il, plein d'exceptions dont pouvaient se prévaloir des ONG, des lobbies pour ne pas signer ce registre de transparence, et notamment les anciens députés européens ne sont pas concernés, me semble-t-il, par cette disposition. Donc Pierre-Antonio Panzeri n'était pas obligé de s'inscrire au registre de la transparence puisqu'il est lui-même un ancien député. Lui, aujourd'hui, c'est lui qui est en train peut-être de donner les clés pour comprendre exactement comment ce Qatargate, comme on l'appelle, a pu être possible. Il a conclu un accord avec la justice belge. Il a obtenu le statut de repenti en échange de ses révélations sur la corruption au sein du Parlement européen. Pourquoi la justice belge, Antoine Vaucher, pourquoi une juge d'instruction bruxelloise, Aurélie De Geff, et pas le parquet européen, tout neuf puisqu'il date de 2021 ?
Oui, c'est vrai que c'est une question qu'on peut légitimement se poser. Ce parquet européen qui a été effectivement créé il y a peu, en fait, n'est compétent au sens juridique du terme que dans les situations où il y a fraude au budget européen. Si, par exemple, on cherche à détourner des subventions européenne dans un État membre et qu'on cherche effectivement à corrompre en échange de subventions. Mais en revanche, le parquet européen n'est pas compétent, ni d'ailleurs les enquêteurs européens, l'OLAF, hein, qui est cet office de lutte anti-fraude européen, n'est pas compétent quand il s'agit, et c'est paradoxal, de corrompre une décision, une résolution du Parlement ou de tout autre d'ailleurs responsable public à l'échelle européenne. Donc c'est vrai que on touche là à une forme de paradoxe, ce qui fait que ce sont les enquêteurs des pays où les institutions européennes ont leur siège. Alors, ça aurait pu être aussi bien dans un autre pays, à Strasbourg, après tout, ça aurait pu être les enquêteurs français qui se retrouvent à enquêter et, bien sûr, avec toutes les difficultés aussi de la coopération judiciaire qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une enquête. Je pense que Louis Collard aura beaucoup plus de choses à dire que moi là-dessus, mais qui est parti pour être une enquête au long cours, avec, bien sûr, toujours le risque d'une forme d'impunité pour des choses dont on a bien vu avec le flagrant délit en quelque sorte initial que vous rappeliez avec les mallettes de billets qu'il était bon aux yeux de tous en quelque sorte un cas de corruption qui reste à résoudre bien sûr mais un cas de corruption.
Donc aujourd'hui l'enquête est menée par des juges d'instruction ou des procureurs belges, italiens, grecs que d'aucuns pensent plus vulnérables à d'éventuelles tactiques dilatoires des avocats plus en tout cas que ne l'aurait été le parquet européen. Est-ce qu'on est Louis Collard dans quelque chose qui s'apparente à une enquête criminelle, puisque vous écriviez dans une tribune que le Qatargate est une affaire criminelle et pas une affaire de lobbying, que ça n'a rien à voir. Pourquoi ?
Oui, c'est ce qu'on pense vraiment avec le co-auteur de notre livre, Joël Matrich. Il y a parfois pu avoir une confusion dans l'opinion publique sur cette histoire avec des tentatives de dire que non, bah c'est du lobbying en vérité, du lobbying d'État qui a peut-être dépassé un petit peu la ligne rouge, mais voilà, ça reste de la politique au niveau européen et du lobbying. Pas du tout, d'ailleurs... Les personnes inculpées dans ce dossier le sont aussi comme membres d'une organisation criminelle. Ça n'est pas anodin. Lorsqu'on a enquêté sur cette affaire, on s'aperçoit vraiment qu'il y a des techniques typiques des organisations criminelles de dissimulation, d'enrichissement personnel. On est avec des soupçons qui sont vraiment de l'ordre du pénal, hein, pas du réglementaire et de plus de transparence pourrait régler ce problème-là. Je ne pense pas que plus de transparence, même si elle est évidemment souhaitable, aurait pu entraver un groupe de personnes déterminées à s'enrichir sur le dos de la démocratie européenne. D'ailleurs, Roberta Metsola, la présidente du Parlement européen maltaise, l'a dit dans son premier discours juste après les perquisitions du 9 décembre 2022. Vous n'empêcherez jamais quelqu'un qui veut recevoir des sacs de billets de recevoir des sacs de billets. Donc le débat est là. Moi, je pense que on peut effectivement poser la question des compétences du parquet européen. C'est une vraie question ouverte. Est-ce que la pression n'est pas trop forte pour les justices nationales ? Et en tout cas, la justice belge, et on le documente dans notre livre, subit des pressions très très importantes des États corrupteurs présumés, entre autres, dans ce dossier-là. Est-ce que c'est pas trop de pression pour une justice nationale ? Est-ce qu'il faudrait pas élargir les compétences du parquet européen ? Moi, je pense que ce serait souhaitable, mais maintenant, c'est un débat qui est sur la table.
Et ce sont les justices nationales, et en l'occurrence la justice belge, qui s'occupent aujourd'hui aussi d'enquêter sur les éventuelles ingérences russes et chinoises dont on parlera tout à l'heure. Donc ce n'est pas, dites-vous, une simple affaire de lobbying. On parle souvent des lobbies industriels au Parlement européen qui ont pignon sur rue, ne font pas qu'entrer au Parlement comme dans un moulin, ils y ont même des bureaux. Le mot lobby est d'ailleurs à prendre au sens large puisqu'il inclut les ONG, les associations de défense de l'environnement ou les droits humains. Là, nous parlons bien d'État tiers souhaitant influencer les élus européens. Est-ce que l'enquête judiciaire s'intéresse aussi, à votre connaissance Louis Collard, aux stratégies diplomatiques du Maroc et du Qatar en l'occurrence, à ce qui a conduit ces deux États à vouloir peser sur les parlementaires européens ?
C'est ça qui est fascinant, cette histoire qu'on raconte notamment dans le livre et dans nos articles. C'est que des intérêts d'États différents des intérêts différents du Maroc, du Qatar et de la Mauritanie, le troisième État dont on parle un peu moins.
Dans une moindre mesure, hein, c'est...
Dans une moindre mesure, ouais. Même si ouais, ils sont quand même soupçonnés d'avoir donné à Panzeri et à son ex-bras droit environ 200 000 euros, donc c'est quand même pas anodin. De ces trois États différents, avec des intérêts différents, ont utilisé ou sont soupçonnés d'avoir utilisé le même groupe de personnes autour de la personne d'Antonio Panzeri. C'est ça qui est fascinant. Et donc, oui, effectivement, l'enquête de renseignement dans un premier temps, puis l'enquête judiciaire s'intéresse naturellement aux intérêts des États corrupteurs présumés. Alors pour le Maroc... ils sont connus, ce sont évidemment tous les accords commerciaux entre l'Union européenne et le Maroc. L'Europe est le premier partenaire commercial du Maroc. Et également, une question plus sensible diplomatiquement, qui est la question du Sahara occidental, sur lequel le Maroc revendique sa souveraineté. C'est l'un des aspects qui les intéressait. Et enfin, comme pour les autres États d'ailleurs, c'est tenter d'attaquer les ennemis ou les adversaires de ces États. Alors pour le Maroc, c'est plutôt l'Algérie. Pour le Qatar, ce sont certains de ses voisins de la péninsule arabique, en particulier l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Et d'ailleurs, on a pu obtenir un document clé avec Joël Matrich dans cette affaire, qui est un listing d'activités présumées menées par le groupe, qui était alimenté par l'assistant parlementaire historique d'Antonio Panzeri, qui est au cœur de ce dossier et qui n'est autre que le compagnon d'Eva Kaili à la ville. Ce fichier numérique qui recensait plus de 300 actions rien que pour le Qatar, évidemment à prendre avec des pincettes, mais c'est justement ça qui révèle que l'objectif était notamment d'attaquer les adversaires de ces pays, de redorer l'image de ces États. Et pour le Qatar, c'est évidemment aussi de vendre sa Coupe du Monde 2022.
La Coupe du Monde 2022 et essayer d'empêcher que ne soit critiqué le Qatar à tout bout de champ sur les conditions de travail des ouvriers sur les chantiers, notamment, et on l'a entendu au début de cette émission, le Maroc, lui, Antoine Vaucher, avait cette volonté, entre autres, d'influencer l'Europe sur le Sahara occidental, peut-être aussi influencer l'enquête sur le logiciel d'espionnage israélien Pegasus, et le Maroc qui l'a utilisé, qui a ciblé plus de 10 000 numéros de téléphone, dont celui d'Emmanuel Macron. Mais vous parliez tout à l'heure du marché européen, de ces 400 millions de consommateurs qui intéressent nécessairement les États tiers. En quoi là aussi, dans le Qatar Gate et toutes ces affaires qui sont en train d'émerger progressivement, cette question du marché européen, des normes régulées par l'Union européenne sont importantes pour comprendre ce qui s'est passé?
Oui. Effectivement, le Parlement européen est un des points d'entrée essentiels sur la régulation de ce grand marché. Donc, effectivement, marché qui est régulé autour de normes, bien sûr, sociales, sanitaires, environnementales. Évidemment, on retrouve là des gros dossiers. Ce sont les dossiers sur la régulation des produits chimiques. Ce sont les dossiers sur les big tech, hein, le numérique. Ce sont les dossiers sur les marchés financiers. Enfin, des dossiers à gros enjeux. Et les enjeux ne sont pas des enjeux seulement intra-européens. Ce sont des enjeux globaux, puisque le marché unique est peut-être le plus grand marché à l'échelle mondiale, dans lequel évidemment les grandes entreprises multinationales, mais aussi les États, ont intérêt à entrer et pouvoir y entrer, disons, dans la mesure la plus favorable pour eux.
Et parfois, les entreprises ou multinationales diligentées, entre guillemets, par les États.
Alors voilà, je pense que c'est très important de le dire. Ça s'inscrit dans une histoire longue des stratégies d'influence qu'on pourrait dire d'État tiers qui sont dans un jeu entre la promotion de leurs grandes entreprises. On pense évidemment aux États-Unis et au fait que depuis les années 70, hein, il existe une chambre de commerce américaine à Bruxelles qui, beaucoup de travaux universitaires ont montré qu'elle avait joué un rôle de lobby extrêmement, extrêmement important auprès du Parlement européen et au moment du marché unique, enfin, c'est-à-dire à la fin des années 80, quand on a justement construit toutes ces règles pour unifier ce marché unique, sanitaire, environnemental, etc. Mais on sait aussi que ces intérêts américains ont pu aussi passer, par exemple, par des cabinets d'avocats. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une histoire longue des stratégies d'influence des États, pour les raisons qu'on a dites. Et un deuxième point qui me paraît important et que le Qatar Gate révèle aussi, c'est que progressivement, ces stratégies d'influence, bien sûr, elles peuvent passer par la diplomatie. Bien sûr, elles peuvent passer par les grandes entreprises et leurs représentants, comme la Chambre de commerce qu'on évoquait. Mais elles peuvent aussi, et de manière croissante, passer par cet espace d'intermédiaires spécialisés, c'est-à-dire les cabinets d'avocats, les cabinets spécialisés en affaires publiques, qui prospèrent, si on peut dire, à Bruxelles, dans lesquels sont souvent employés d'ailleurs d'anciens dirigeants politiques ou d'anciens hauts fonctionnaires, et qui sont des têtes de pont en quelque sorte, alors de toutes sortes d'intérêts intra-européens, mais aussi d'intérêts extra-européens. Et évidemment, là, dans l'affaire Qatar Gate, ce qui est très particulier, c'est que c'est une ONG. Donc, on peut dire que c'est un faux-né un petit peu complexe à identifier. Mais d'une certaine manière, ces intérêts étrangers se sont en quelque sorte coulés dans la politique de l'influence européenne telle qu'elle se déroule à Bruxelles à travers ses professionnels, c'est-à-dire ses spécialistes des affaires publiques, ses lobbyistes, etc.
Ça, avec beaucoup de pantouflage, comme on dit, c'est-à-dire d'anciens élus qui ont travaillé pour le public et qui aujourd'hui travaillent pour le privé avec des conflits d'intérêts.
Tout à fait. On peut donner l'exemple, par exemple, de Nelly Kroes, qui était la commissaire dans l'ancienne commission précédente de celle d'Ursula von der Leyen, commissaire au numérique, qui est passée, l'affaire de l'Uberfile l'avait montré, comme responsable du comité des affaires publiques de Uber en Europe.
Il y a aussi ce que vous appelez dans votre rapport le moonlighting. En fait, c'est le fait de cumuler un mandat avec un deuxième emploi. Et ça aussi, on peut l'observer, alors que ce soit au service d'intérêts qataris, marocains, russes, mais aussi américains en l'occurrence, parce qu'on sait que certains élus travaillent aussi pour des think tanks américains.
Oui, bah c'était le cas de Sylvie Goulard, qui effectivement, dont la nomination finalement comme commissaire n'a pas eu lieu parce qu'elle avait quand elle était parlementaire européenne, travaillait pour un think tank américain. Donc, effectivement, ces jeux sont assez fréquents. Et d'une certaine manière, le Parlement européen, les parlementaires européens bénéficient d'un statut qui reste relativement flou sur cette question-là. Les cumuls de rémunération et le cumul d'activités, alors même qu'en France, par exemple, ils sont assez réglementés aujourd'hui, restent très peu réglementés. C'est des obligations simplement de déclaration. Mais il n'y a pas de contrôle à proprement parler. Et évidemment, bon, ça crée une zone de chevauchement, on pourrait dire. Et certains rapports de Transparency International, l'ONG qui suit les questions d'éthique publique, montrent que c'est une pratique quand même assez répandue.
Alors, avant d'évoquer les mesures qui ont été prises par le Parlement européen depuis les révélations qui ont trait au Qatar, vous vouliez, Louis Collard, me semble-t-il, donner un exemple supplémentaire.
Oui, je trouve que Antoine Vaucher a tout à fait raison de mettre l'accent sur l'importance économique aussi des ingérences étrangères dans le Qatar Gate. Et évidemment, il y a toute une partie qui est plus déclarative. On l'a dit, hein, c'est empêcher des résolutions ou porter des textes ou porter des discours pro-État corrupteur présumé. Mais il y a aussi un exemple très parlant et qui est là vraiment à cheval entre la diplomatie et l'économie dans le Qatar Gate. C'est un texte sur l'abandon ou la non-nécessité d'obtenir des visas Schengen pour les ressortissants qataris, qui est évidemment un dossier qui a un poids économique important. Et ce qu'on documente dans notre livre et qu'on a documenté aussi dans une enquête publiée en décembre dernier avec l'European Investigative Collaborations, c'est à quel point ce dossier avait été important pour le Qatar dès 2018, c'est-à-dire dès que Antonio Panzeri, toujours des eurodéputés, rencontre pour la première fois son homologue qatari, le corrupteur présumé. Dès cette première rencontre, il lui parle de cette volonté du Qatar d'obtenir l'exemption de visa à Schengen pour ses ressortissants. Et on va voir au fil des années, donc de 2018 jusqu'à 2022 et quelques jours avant les arrestations et les perquisitions, le texte avait été voté en commission et approuvé, depuis il a été remis au frigo, que le groupe Panzeri va mettre en place toute une stratégie pour obtenir cette exemption de visa pour le Qatar. Donc voilà, il y a aussi un exemple économique très fort dans le Qatar Gate.
Alors, il ne s'agit pas de mettre sur un même plan tous les exemples que l'on donne ici dans cette émission, ni de dire que tous les États corrupteurs présumés, comme vous dites, ont les mêmes intentions. Mais puisque vous parliez aussi du lobbying américain, il se trouve que quand le Parlement européen examinait il y a une dizaine d'années le projet de règlement sur les données européennes, des députés avaient clairement dit dans l'hémicycle que les entreprises américaines de la Silicon Valley ne voulaient pas de cette nouvelle réglementation. Et puis des ONG, notamment allemandes et autrichiennes, avaient établi que sur les 3000 amendements déposés par les députés, nombre d'entre eux avaient été inspirés par l'industrie, parfois même des copier-coller de positions des sociétés américaines. Simplement, il s'agit de peut-être essayer d'être un petit peu exhaustif quand on parle de lobbying d'États tiers au sein de l'Union européenne. Alors maintenant, toutes ces affaires révèlent une chose, c'est la très faible protection de l'Union européenne vis-à-vis des stratégies d'influence étrangère. Il y a bien pourtant, Antoine Vaucher, des mécanismes de protection, d'éthique au sein de l'Union européenne. Comment fonctionnent-ils? Pourquoi sont-ils régulièrement pris à défaut?
Alors, l'Union européenne a effectivement beaucoup de règles. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, pendant de nombreuses années, on a considéré que l'Union européenne, Bruxelles, était un modèle pour en matière de promotion de l'éthique publique, de transparence. Et c'est d'une certaine manière le cas. Il y a beaucoup d'obligations déclaratives, c'est-à-dire quand on est commissaire, on doit rendre compte de son agenda, quand on est parlementaire européen et de l'ensemble des rencontres que l'on fait, sauf avec des diplomates, ce qui peut du coup rejoindre un peu notre question. Pour les parlementaires européens. Donc, il y a beaucoup d'obligations déclaratives. Mais en revanche, il y a très peu d'incompatibilités. On l'a dit, par exemple, sur les cumuls de fonctions. Or, les incompatibilités, c'est les règles qui permettent effectivement tout de même de protéger des hauts fonctionnaires et a fortiori des parlementaires, de toutes sortes de jeux d'influence qui peuvent s'exercer. Et puis, ces règles, quand il y en a, en réalité, elles restent très faiblement appliquées. C'est-à-dire, on évoquait tout à l'heure le registre de transparence, c'est-à-dire le fait que les lobbies doivent se déclarer effectivement à un registre. Eh bien, ce registre, en fait, ce sont des obligations déclaratives, mais c'est purement déclaratif. En ce sens qu'il y a très peu de contrôle, et ça a été montré très récemment par un rapport de la Cour des comptes européenne, qui montrait justement que ce registre, mais finalement, il n'est pas si fiable que ça, parce que l'administration de ce registre, l'équipe qui gère ce registre a très peu de moyens de contrôler effectivement les déclarations. Alors, c'est ce premier point. C'est souvent donc sans contrôle. Et puis, ces règles, elles sont souvent appliquées en interne. Par exemple, au Parlement européen, c'est un comité consultatif composé de parlementaires qui ensuite renvoie la décision finale à la présidente, en l'occurrence du Parlement européen, qui décide effectivement s'il y a eu violation ou pas de l'éthique publique. Donc, en fait, de certaine manière, c'est des formes d'autorégulation. Beaucoup de travaux de sciences politiques montrent que les conditions dans lesquelles, effectivement, on se contrôle soi-même, en quelque sorte, ne sont pas, en général, les meilleures garanties de faire émerger l'enjeu de l'éthique publique, parce qu'on a toujours peur que ce soit la réputation de l'institution qui soit en jeu, qu'il vaille mieux, en quelque sorte, mettre la poussière sous le tapis.
Comme le disait la présidente du Parlement européen qu'on entendait au début de l'émission, alors des mesures, elle a annoncé l'année dernière, des mesures pour mieux contrôler, notamment les allers-retours entre le Parlement européen et les entreprises privées, mais l'obligation de période de césure n'est que de 6 mois après la fin d'un mandat, ce qui laisse dire tous les opposants à cette mesure ou ceux qui la critiquent que les informations glanées par un élu au Parlement peuvent être utiles à des entreprises même 6 mois plus tard, donc ce n'est pas assez long d'après eux. Après le Qatar Gate, des groupes d'amitié ont été dissous. Qu'est-ce que ça devient un groupe d'amitié quand il est dissous? Est-ce que le groupe d'amitié entre l'Union européenne et le Qatar, par exemple, avait un rôle dans cette histoire?
À notre connaissance, non. Mais effectivement, le Qatar Gate a été un révélateur d'un certain nombre de problématiques liées à la transparence. Cette question des groupes d'amitié en fait partie, évidemment. Les lobbyistes qataris, eux, juste après l'affaire, ont été déclarés persona non grata dans les couloirs du Parlement européen. Et ces groupes d'amitié ont également été déclarés persona non grata. Mais en vérité, ces groupes d'amitié, ils n'avaient déjà pas de de réelle existence officielle en tout cas. Et c'est tout le problème, je pense. Même si on peut également s'interroger sur le bien fondé même de ce type d'organisation, vraiment non déclaré, le groupe d'amitié entre des parlementaires européens et des parlementaires d'État tiers ou d'élus d'État tiers. L'autre exemple de mauvaise pratique, en quelque sorte, qui a été révélée par le Qatargate, c'est la déclaration des voyages financés par des pays tiers.
Il y en a eu pas mal, ça, hein, des voyages, des cadeaux.
Et oui.
Le directeur général du département de la Commission européenne en charge des transports qui s'est fait payer 9 voyages sur Qatar Airlines, c'est ça, entre 2015 et 2021.
Tout à fait, il est épinglé pour ça. Mais même les eurodéputés sont censés déclarer dans les 2 mois après le retour de ce voyage payé par un pays tiers, de le déclarer avec dans une déclaration qui est publiée sur leur page, sur le site internet du Parlement européen, tout simplement. Mais beaucoup ne le faisaient pas, en vérité. Et ça qu'a montré le Qatargate, c'est que dans la foulée de l'affaire, et notamment dans la foulée de la révélation par Politico que la présidente de la commission des droits de l'homme du Parlement européen, qui est en fait qui a succédé à Pier Antonio Panzeri et qui a été entendue en qualité suspecte assez récemment d'ailleurs dans le dossier, la Belge Maria Arena, la révélation qu'elle n'avait pas déclaré un voyage au Qatar, qui l'a poussée à quitter la chaire de présidente. Bien des dizaines et des dizaines d'eurodéputés ont déclaré leur voyage avec parfois des années de retard suite à ça. Donc voilà, le Qatargate a été le révélateur de plusieurs éléments comme ça.
Antoine
Vaucher.
Un petit rappel à l'ordre. Antoine Vaucher.
Oui, bah effectivement, là, d'une certaine manière, ce qui est intéressant dans ce Qatargate, c'est qu'on voit bout à bout un ensemble de pratiques, effectivement, de non-déclaration, précisément, de prix, de cadeaux, d'échanges. Alors, il y a plusieurs strates explicatives. Hein. On pourrait parler effectivement de formes de non-vigilance ou de tolérance par rapport à ces pratiques qui sont liées justement à ces formes d'autorégulation. On ne va pas commencer à épingler tel ou tel parlementaire, etc. Puis je dirais quand même qu'il y a aussi une tradition. Alors, il y a beaucoup de débats au sein de l'Union européenne, hein, mais il y a une tradition aussi qui consiste à favoriser les partenariats publics-privés, à considérer que c'est très important. Pour la compétitivité de l'économie européenne, pour l'efficacité des institutions européennes, qu'elles favorisent en quelque sorte des profils de gens qui sont passés du public au privé. Alors le cas du Qatar là, est encore un peu à part, hein, bien sûr, mais il y a beaucoup de discussions sur aujourd'hui, voilà, est-ce que ce type de profil est un profil, ce type de profil de circulation publique-privée, de pantouflage justement, est la garantie d'une efficacité, d'être un bon fonctionnaire, ou est-ce qu'au contraire, c'est le risque de forme de capture de la décision publique par des intérêts étrangers éventuellement, mais en tout cas privés.
Et d'autant plus difficile à évaluer a priori que le Qatar, le Maroc sont considérés par l'Union européenne comme des partenaires stratégiques. Les services de renseignement notamment ont eu l'air avant le Qatargate de ne pas se sentir tellement concernés par ces ingérences étrangères qatari ou marocaines, focalisés qu'ils sont sur la Russie et sur la Chine, considérés comme adversaires qui veulent déstabiliser l'Union européenne. On en parle juste après Iggy Pop. We'll be right back. Corruption, la corruption gouverne mon âme, chantait Iggy Pop en 1999. Vous écoutez Culture Monde, le deuxième épisode de notre série sur le Parlement européen. Puissance et impuissance d'une institution élue, avec nos invités Louis Collard et Antoine Vaucher. Nous parlons de la façon dont le Parlement européen tente aujourd'hui de se prémunir contre les influences étrangères un an après le scandale du Qatargate. Mais d'autres ingérences ont été révélées depuis. Russes, nous en avons un peu parlé, et chinoises.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
J'ai fait l'objet d'intimidation, j'ai fait l'objet de menaces de la part de la Chine, et je soupçonnais effectivement qu'ils cherchaient à s'introduire dans mon ordinateur, dans mon téléphone, et donc là on a eu cette confirmation. Il y a quelques années, j'avais indiqué qu'effectivement le comportement de la Chine qui attaquait déjà la Belgique était inacceptable, j'avais même traité la Chine d'état voyou, et j'ai fait l'objet à la fois de menaces, d'intimidation, et aussi de tentatives de séduction, puisque une des collaboratrices de l'ambassade de Chine a proposé d'aller faire des vendanges avec moi, et donc c'est intéressant de voir toute la panoplie d'instruments qu'ils utilisent pour tenter effectivement à la fois de nous déstabiliser, de nous faire changer d'opinion ou de nous intimider, oui.
Partir faire les vendanges pour séduire cet élu Georges d'Allemagne, qui n'est pas allemand, qui est belge, parmi les 5 députés belges ciblés par une cyberattaque d'espionnage par le groupe de hackers chinois APT31, puisque l'heure est au suffixe, au Russia Gate. S'ajoute donc à Bruxelles un China Gate, en Allemagne aussi, qui a arrêté fin avril l'assistant d'un eurodéputé du parti d'extrême droite AFD, soupçonné d'espionnage au profit de Pékin. Bonjour Elisa Braun.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes correspondante pour Politico à Bruxelles, où vous couvrez toutes les questions judiciaires qui ont une dimension politique et européenne. Est-ce qu'on sait d'abord ce qui a aiguisé les soupçons sur l'assistant parlementaire germano-chinois de la tête de liste de l'AFD, donc parti néo-nazi allemand, Alternative für Deutschland, au Parlement européen, Maximilian Kratz, et ce qui a finalement conduit à son arrestation le 23 avril?
Alors, pour le moment, sur cette investigation du China Gate, on n'en sait pas énormément, mais ce qui est intéressant et qui fait la magie de la radio en direct, c'est qu'à l'heure où nous parlons, il y a des perquisitions en cours dans son bureau au Parlement européen. J'en ai eu la confirmation juste avant par le porte-parole du parquet fédéral belge. Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'il y a une demande d'entraide entre les autorités belges et allemandes. Il y a une enquête qui implique donc plusieurs services pour tenter de faire la lumière sur ce que, comme vous disiez, est un secret de polichinelle, en fait. C'est-à-dire que la Chine, tout comme d'autres puissances étrangères, ont une attention particulière sur le Parlement européen.
Là, en l'occurrence... Pardon, en ce qui concerne cet assistant parlementaire germano-chinois de Maximilian Kratz, le Spiegel dit par exemple qu'il aurait transmis, il est soupçonné en tout cas d'avoir transmis au ministère chinois des informations sur des législateurs de l'opposition qui sont en Allemagne, sur des informations aussi sur l'influence de la Chine sur les infrastructures de l'Union européenne. Die Zeit dit même qu'il avait essayé de rejoindre les services de renseignement allemands il y a quelques années, mais que ceux-ci le soupçonnaient d'être une taupe, comme on dit, à la solde de Pékin. Est-ce que cette affaire a un lien avec d'autres affaires qui sont en train de sortir en ce moment, que ce soit le cyberespionnage de l'ancien Premier ministre belge Guy Verhofstadt ou de l'eurodéputé François-Xavier Bellamy du PPE, ou que ce soit des révélations qui ont eu lieu ce matin même au Royaume-Uni et qui viseraient cette fois de l'espionnage du ministère, je crois, des Affaires étrangères?
Oui, effectivement, on a vu ce matin via la BBC et Sky News qu'il y allait avoir de nouvelles révélations sur une nouvelle affaire d'espionnage suspecté chinois. Comme vous le remarquez très bien, en ce moment, ces affaires se multiplient. C'est pas complètement anodin à l'approche des élections, mais je pense que plus encore, c'est pas anodin compte tenu du contexte géopolitique actuel. On sent qu'il y a eu un durcissement au cours des derniers mois, des dernières années. Comme vous le disiez, autant le Qatar et le Maroc sont perçus comme des partenaires stratégiques, autant la Russie ou la Chine sont, eux, plutôt identifiés comme des adversaires, de manière assez claire. Et alors qu'approchent les élections, toutes ces affaires sortent justement sur les partis qui sont les plus proches de ces puissances-là. On l'a vu sur la Chine avec cette enquête qui porte sur Maximilian Kra de l'AFD et son assistant parlementaire, mais on l'a vu aussi à des échelons plus locaux avec différentes affaires, y compris en Allemagne, où il y a 3 personnes qui évoluent également proches d'un parlement national qui ont été arrêtées sur fond de suspicion d'espionnage avec la Chine. Donc oui, ces affaires se multiplient en raison de ce contexte, je dirais.
Et ces ingérences, si elles sont confirmées, est-ce qu'elles ont déjà eu le moindre effet sur la politique européenne vis-à-vis de la Chine ? Pour en revenir à notre sujet de la semaine, qui est le Parlement européen.
Oui, alors ça c'est extrêmement difficile à qualifier, et mon confrère Louis Collard, avec qui on a souvent travaillé sur le Qatar Gate, vous le direz également, c'est très très difficile de prouver à quel point est-ce que ces stratégies d'influence sont efficaces. En ce qui concerne l'influence du Qatar, par exemple, on voit que le fait d'avoir investi des millions auprès de parlementaires européens s'est traduit par l'annulation de quelques résolutions, ou alors on peut soupçonner aussi des effets plus larges sur des politiques d'attribution de visa. Mais en fin de compte, on n'en aura jamais la preuve ultime. Les enquêtes en matière de corruption prennent des années. Sur celle du Qatar Gate, il faut s'attendre à avoir un procès dans 6 à 7 ans. Quand il s'agit de cas encore plus complexes avec des espions impliqués qui sont souvent par ailleurs exfiltrés bien avant que les vrais sujets n'arrivent, vous vous doutez bien que c'est encore plus difficile d'avoir des preuves. Maintenant, il y a quand même des traces au Parlement, vous le savez. Pour passer d'un bâtiment à l'autre, il y a des caméras, il y a des badges. On voit quand même où les personnes vont. On peut également avoir des traces informatiques de qui peut accéder à certaines réunions confidentielles ou non. Et ça, bien sûr, ça fait l'objet des enquêtes. Mais pour le moment, on n'en est en vérité qu'au début. Donc, c'est encore difficile de mesurer quels effets directs cela peut avoir sur la politique européenne. Sinon, celui, en tout cas, d'une vigilance supplémentaire. On le sait, des messages ont été envoyés à des parlementaires. Le FBI lui-même a communiqué aussi avec des politiques européens, puisqu'il a été informé d'attaques de ce groupe de hackers chinois. Et on sent un durcissement global des pratiques, et j'espère une plus grande vigilance aussi des politiques qui sont les plus précieux aux yeux de ces services de renseignement étrangers.
Peut-être un mot, Elisa Brown, pour conclure sur la ville de Bruxelles. En tout cas, les autorités belges et la justice belge qui se mettent aujourd'hui à enquêter tous azimuts sur ces ingérences. Alors, d'autres pays alliés européens comme la France par exemple considéraient jusqu'à présent que l'espionnage chinois ciblait les domaines de la recherche scientifique et universitaire, mais moins la politique en tant que telle. La Belgique, elle, est consciente depuis plus longtemps, puisqu'elle abrite à la fois les institutions européennes et l'OTAN, de ce que d'être particulièrement vulnérable à l'espionnage.
Alors, ça fait au moins 2 ans, en tout cas, que la Belgique a fait le vœu de renforcer ses effectifs au niveau de son service de renseignement. Il y a aujourd'hui un peu plus de 1000 agents, même si on ne sait pas exactement quelle part travaille plus spécifiquement sur le contre-espionnage. Mais c'est vrai que c'est un pays qui est au contact direct, forcément, vu la part importante d'institutions qui y sont. On compte environ 26 000 diplomates enregistrés dans la capitale. Et d'après les services de renseignement belges, 10 à 20% d'entre eux pourraient être des agents de renseignement. Donc effectivement, il y a une attention particulière, et une affaire comme celle du Qatar Gate et du Maroc Gate a fait la démonstration d'un intérêt des autorités d'aller sur ce terrain-là. Maintenant, est-ce qu'un État à lui tout seul peut se charger de toutes ces enquêtes? Il me semble que ça, c'est une difficulté aujourd'hui, et c'est d'ailleurs ce que pousse la Belgique auprès de ses partenaires européen de renforcer l'arsenal judiciaire pour pouvoir aller faire des enquêtes européennes sur des sujets, par exemple, d'influence, des opérations de désinformation.
Merci beaucoup, Elisa Brown, correspondante pour Politico à Bruxelles. Et c'est vrai que c'est la justice belge qui a ouvert une enquête judiciaire à la fois sur les ingérences chinoises au Parlement européen, mais aussi sur les ingérences russes que nous n'avons fait qu'évoquer jusqu'à présent. Alors je voudrais conclure avec ça, Antoine Vaucher et Louis Collard qui êtes toujours avec nous. Les services de la République tchèque ont enquêté sur les parlementaires ou leurs assistants achetés cette fois par la Russie pour tenter d'influencer l'opinion publique avant les élections du mois de juin qui arrivent. Et des mesures ont été prises très spécifiquement sur l'ingérence russe, par exemple. Les parlementaires ont voté le 25 avril, à 429 voix pour sur 504 votants, la mise en place d'un indice d'influence hybride russe. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi y aurait-il des mesures spécifiques sur la Russie alors qu'on entend bien depuis le début de cette émission que ces ingérences, elles sont tous azimuts, Antoine Vaucher.
Alors, je ne connaissais pas cet indicateur, mais je trouve ça très révélateur, y compris de ce que, par rapport à ce que disait Eva Braun, du fait que, en réalité, Bruxelles s'enorgueillissait en quelque sorte d'être la capitale de l'influence dans les années 80, justement ouverte à tous les intérêts et pluraliste du point de vue des intérêts, et s'enorgueillissait justement d'être le lieu à la mesure de Washington, où il y avait le plus de lobbies et le plus de groupes d'intérêt, comme une façon de montrer son influence, en quelque son importance, pardon, au contraire. Et on voit bien maintenant, au contraire, que toutes les influences n'en sont pas bonnes à prendre et que, avec la montée de conflits commerciaux et bien sûr aussi de guerres, eh bien, il y a voilà cette question de la souveraineté qui prend le pas et un tri qui commence à être opéré, pas facile dans une politique qui a toujours mélangé le public et le privé. Un tri qui est fait entre les bonnes et les mauvaises influences.
Louis Collard.
Oui, juste, je voudrais faire une petite correction. Je pense que l'enquête sur le Chinagate, c'est-à-dire l'arrestation de cet assistant parlementaire de Maximilian Kra, est une enquête allemande, du parquet fédéral allemand. En revanche, vous avez raison, le volet russe, le Russiagate, autour d'une plateforme, d'un site qui s'appelle Voice of Europe et là aussi de corruption d'eurodéputés plutôt d'extrême droite.
Effectivement, il serait intervenu moyennant finance sur cette radio, mais ils s'en défendent. Mais oui, en effet, c'est passé par ce média.
C'est effectivement la Belgique qui a ouvert une enquête judiciaire pour la première fois. Et ça, c'est l'une des conséquences du Qatargate, une fois encore. Pour la première fois, pour le chef d'ingérence étrangère dans des processus démocratiques. C'était une incrimination, un délit qui n'existait pas dans le code pénal jusqu'il y a quelques semaines, en vérité. Il vient d'être adopté par le Parlement de Belgique. Et c'est la première enquête, ce Russiagate, sur ce principe de ingérence étrangère.
Donc, juste un mot pour parler de cet indice d'influence hybride russe qui a été mis en place par le Parlement. Parmi les critères retenus, par exemple, pour identifier les relais du régime russe, le fait de plaider contre les nouvelles fournitures d'armes à l'Ukraine sous couvert de promouvoir la paix, ce qui ne va pas manquer de créer des débats entre parlementaires, mais enfin, ils l'ont voté, encore une fois, à la majorité, ou l'évaluation de la résilience d'un pays candidat à l'Union européenne, à l'influence hybride de la Russie, avant que de l'accepter parmi eux. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous. Antoine Vaucher, politiste, directeur de recherche au CNRS, au Centre européen de sociologie et sciences politiques de l'Université Paris 1, co-auteur du livre blanc de l'Observatoire de l'éthique publique que nous mettons en lien sur la page de l'émission Culture Monde. Vous avez aussi co-écrit avec Éric Monnet l'Europe du marché à la puissance publique avec un point d'interrogation, c'est paru au PUF. Merci beaucoup Louis Collard, journaliste au pôle Enquête le Soir, co-auteur de l'enquête Qatargate paru chez HarperCollins avec votre collègue au journal Le Soir, Joël Matriche. Vous étiez en duplex avec nous depuis les studios de Radio France à Bruxelles. Merci beaucoup à Angélique Bouin de vous avoir reçu. Et puisqu'on a évoqué cette députée grecque dans cette émission, honnie aujourd'hui par nombre de ses concitoyens pour avoir accepté des dizaines de milliers d'euros du Qatar, il se trouve qu'Angélique Kourounis, on a beaucoup parlé sur notre antenne, la correspondante de Radio France dont nous avons appris la mort hier, on l'avait reçue dans Culture Monde il y a un an, dans notre série sur les partis d'extrême droite, une certaine idée de l'histoire. Elle était venue nous parler d'Aube Dorée, ce parti néo-nazi qu'elle connaissait très finement pour avoir assisté à de nombreux procès. Et d'ailleurs, un député grec d'Aube Dorée est toujours aujourd'hui parlementaire européen en tant qu'indépendant. Un salut reconnaissant à Angélique Kourounis et des pensées à ses proches. Vous écoutez Culture Monde, c'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Vous commencez en Allemagne, Catherine. Un homme cherche à s'immortaliser grâce à l'intelligence artificielle.
Au lieu de fêter son 61e anniversaire avant-hier, Michael Baumer a préféré dire au revoir à tous ses amis lors d'une fête au bord du lac Müggelsee à Berlin. Michael Baumer sait qu'il va mourir d'un cancer, explique d'emblée le journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung. Il est en phase terminale, mais après sa mort, il souhaite encore pouvoir raconter des histoires à sa famille, leur donner des conseils, comme il le fait aujourd'hui. Sa voix, un peu cassée, phrases saccadées, raconte à la Frankfurter Allgemeine Zeitung ses souvenirs d'enfance, quand il parcourait les forêts, multipliait les aventures avec sa bande de copains, ses plus belles vacances aussi sur l'île de Bora Bora ou encore sa carrière dans l'informatique. Cette même voix souhaite une bonne nuit à sa femme, Annette, et donne des conseils à sa petite fille en matière d'amour. Sauf que ce n'est pas Michael Baumer qui parle, la voix est générée par ordinateur, précise la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Le sexagénaire a fait immortaliser ses souvenirs, c'est le premier client de la start-up américaine d'intelligence artificielle Eternos, dirigé par l'un de ses plus vieux amis. Michael Baumer doit enregistrer jusqu'à 300 phrases de « La porte est ouverte » à « Je t'aime » pour déployer tout un éventail d'émotions. Il doit aussi répondre à une centaine de questions personnelles, rapporte la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Plus il y a de matériel source, plus l'IA est précise, confirme la BBC. Et Eternos n'est pas la seule start-up qui cherche à nous immortaliser d'une certaine manière, indique The Conversation, média qui traite de l'actualité universitaire.
What if there was one place where all of your memories could live forever? One place where you could ask any question about the life of someone you love and always hear their voice.
Et s'il existait un endroit où vos souvenirs pourraient vivre pour toujours, un endroit où vous pourriez poser n'importe quelle question sur la vie de quelqu'un que vous aimez et toujours entendre sa voix, vante cette publicité pour Hereafter AI, relayée par The Conversation. Contrairement aux méthodes conventionnelles de stockage des souvenirs, Hereafter est interactif. Avec l'intelligence artificielle, Michael Baumer explique à la Frankfurter Allgemeine Zeitung qu'il a le sentiment de laisser derrière lui quelque chose de réconfortant à son épouse, leurs enfants et 6 petits-enfants, 10 heures de matériel audio, précise le quotidien allemand, 1 gigaoctet de données pour résumer une vie, une version vidéo devrait bientôt suivre pour le prix de 15 000 $.
Et cela pose bien sûr des questions éthiques.
Comment faire son deuil avec cette nouvelle possibilité offerte par l'intelligence artificielle, demande la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Faut-il s'inquiéter de cette nécromancie numérique, comme l'appellent des sociologues de Liverpool dans The Conversation, puisqu'il s'agit d'une certaine manière de conjurer la mort à partir des traces numériques laissées par des proches. Si l'épouse de Michael Baumer souhaite utiliser l'intelligence artificielle, ses enfants sont plus hésitants, souligne la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Mais pour le sexagénaire, c'est comme s'il laisser une photo derrière lui, on peut l'accrocher ou la laisser dans un tiroir, dit-il. The Conversation y voit le prolongement moderne des reliques, même religieuses, qui peuvent apporter du réconfort, des portraits ou photos de défunts avec qui l'on peut déjà s'imaginer converser. Mais de son côté, un professeur de psychologie à l'université de Dublin s'inquiète, lui, pour la santé mentale de ceux qui restent et qui seraient confrontés à l'IA. Car l'oubli, peut-on lire dans The Conversation, est un élément important dans le cadre d'un deuil sain. Et le Guardian y voit comme un écho à l'épisode bientôt de retour de la série Black Mirror qui date de 2013 où une jeune veuve se met à discuter en ligne avec son défunt mari avant que les choses ne prennent inévitablement une tournure sinistre. Peut-être faudra-t-il revoir l'acronyme anglais YOLO, l'expression anglaise « You only live once », on ne vit qu'une fois. C'est ce que relève The Conversation, qui cite le livre de la chercheuse anglaise Debra Bassett, « La création et l'héritage des vies numériques après la mort, on ne vit que deux fois ». Bientôt, donc, on pourra aussi dire YOLT, « You only live twice ».
Dernier arrêt de cette revue de presse internationale, Catherine, en Espagne, où un petit village de l'île de Minorque veut diminuer l'afflux de touristes.
Et c'est un autre changement lié au numérique. Le village de Binibecabel attire depuis longtemps les touristes qui veulent arpenter ses ruelles sinueuses et étroites, bordées de villas, blanchies à la chaux. Mais sa popularité a explosé avec les réseaux sociaux, raconte le site d'information espagnol El Diario et le Guardian à Londres. Nuées de selfies dans les rues pavées de Binibecabel, des touristes sont même entrés dans certaines maisons pour prendre la photo parfaite au coucher du soleil, raconte El Diario. mondiaux. Jusqu'à 800 000 visiteurs par an dans ce petit village de Minorque. Peut-être 1 million cette année, estime le Guardian. Un groupe représentant les 195 propriétaires de Binibé-Cabel menace de bloquer complètement l'accès au village. Les horaires de visite ont déjà été resserrés ce mois-ci pour demander aux touristes de ne passer qu'entre 11h et 20h, indique le Guardian. Nous voulons prendre notre petit déjeuner tranquillement sur nos terrasses et dormir paisiblement, sans bruit, explique au journal britannique un habitant de Binibé-Cabel. Attention à ne pas nuire en revanche à la centaine de familles qui dépendent du tourisme pour faire tourner les hôtels, bars et boutiques de souvenirs, relève le Guardian. La fermeture de Binibé-Cabel ne se ferait qu'en dernier recours. Il serait toujours possible de faire le tour du village, mais plus question de pénétrer dans les ruelles intérieures, conclut le Guardian. Et cela suffira bien pour les photos sur Instagram, ironise un habitant.
Merci beaucoup Catherine Dutu.